Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. Sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com/binge-audio. On a besoin de votre soutien, il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénef. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui a préparé tout un stock de mouchoirs, car il y a de l'émotion dans la voix de nos valeureux critiques qui ont totalement fendu l'armure devant Monster Calls, quelques minutes après minuit, le dernier film du talentueux Juan Antonio Bayona, auquel cet épisode sera totalement consacré, et devant lequel donc, je cite le mail que m'a envoyé l'une des personnes autour de cette table, je ne dirai pas laquelle, nos vigoureux cinéphiles ont chialé comme des petites orphelines. Tout un programme, ces deux grands sensibles, ce sont Yannick Daron, salut Yannick.
Salut.
Et Rafik Djoumi, bonjour Rafik.
Salut.
Et je salue également le public réuni ici à l'antenne Paris, c'est nos ciné épisode 65 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Quelques minutes après minuit, c'est donc l'histoire de Connor, alias le jeune comédien Lewis McDougall. Connor qui donc tente comme il peut d'affronter le drame qui secoue sa vie, à savoir le cancer en phase terminale qui est en train d'emporter sa mère, Lizzie. C'est Felicity Jones également à l'affiche du dernier Star Wars dont on a parlé tout récemment ici même. Et pour tenter de traverser cette terrible épreuve, Connor va recevoir une aide un peu peu banale. Une aide peu banale, c'est ça que je voulais dire. Celle d'un monstre, un gigantesque homme-arbre auquel Liam Neeson prête sa voix.
How does the story begin?
With a boy. Too old. To be a kid.
You're coming to live with me.
Au casting, on retrouve également Geraldine Chaplin, la fille de Charlie Chaplin, et notre bien-aimé Sigourney Weaver. Bayona, on le rappelle au passage, on lui doit déjà The Impossible et surtout le terrible L'Orphelinat, qui personnellement fait partie de mes favoris, même si j'ai pas dormi pendant 24 heures après son visionnage il y a maintenant 8 ans. Car oui, moi aussi, je suis sensible, messieurs. Quel regard on porte sur ce Monster Calls autour de la table? Un regard embué de larmes, certes, mais pas que, Rafik.
Alors, comment dire simplement, en fait,
ne pleure pas.
Déjà, il faut pas pleurer. C'est un film qui ne laisse pas le choix à son spectateur que de se laisser justement aller à son émotion, et c'est ce qui risque, hélas, de lui poser problème avec une partie, en tout cas, de la critique, c'est sûr, peut-être oui. Même du public.
Peut-être du public.
Voilà. Moi, j'étais dans une salle de projo où, à un moment donné, il s'est passé un truc intéressant, c'est que absolument tout le monde, et j'insiste là-dessus, tout le monde dans la salle a essayé au même moment de faire le même geste, qui était de lever discrètement un doigt pour venir éponger une larme qui coulait sur le coin de l'œil. Et quand tu as 40 ou 50 personnes qui font un geste en même temps, forcément, il est moins discret,
oui, discret
qu'on le voudrait. Donc tout le monde s'est grillé, si tu veux. Bon.
Oui.
Et c'était une façon, il y avait on avait envie de dire à ce moment-là, lâcher l'affaire, quoi, pleurer à chaudes larmes. Bon. Mais c'est un truc qui poursuit Bayona depuis le début de sa carrière et surtout depuis The Impossible. Il y a des gens qui n'ont pas pardonné The Impossible parce que, pareillement, c'était un film qui t'empêchait de retenir tes émotions.
Très, très voilà. Émouvant,
et donc c'est en même temps c'est sa force. Pour moi, ça fait partie des deux réalisateurs qui se sont vraiment révélés au XXIe siècle. J'en ai pas d'autres. C'est Edgar Wright et Bayona qui sont des gars qui ont à la fois un style extrêmement reconnaissable, très personnel, qui ont appris des grands maîtres, synthétisé des 100 ans de cinéma et qui savent absolument tout faire, c'est-à-dire passer de l'intimisme au grand spectacle, au réalisme, du fantastique, etc. Enfin, avec une aisance absolument extraordinaire.
Yannick.
Alors, ouais, oui, je suis complètement d'accord.
Réveille-toi, Yannick, s'il te plaît.
Ouais, non, je me réveille. Non, mais je trouve ça magnifique. C'est pas simplement le film qui a fait pleurer, et c'est marrant parce que j'ai vécu exactement la même chose que Rafik, projo de presse, hein.
Oui.
Des putains de critiques de cinéma, c'est la pire race du monde. Je veux dire, les mecs, ils sont sans pitié.
On va encore se fâcher avec la profession.
Mais au bout de 20 minutes, c'était pas, ils portaient le doigt là, c'est tout le monde sortait le mouchoir, et j'entendais de partout. Moi, j'ai jamais autant chialé de ma vie devant un film. C'était sur la route de Madison. Alors, tu vois, ça remonte à loin.
Je cherchais qu'est-ce que ça pouvait être.
Je trouve le film incroyable pour toutes les raisons que dit Rafi, que ce mec-là est littéralement bluffant d'avoir si jeune une telle maturité et dans la fabrication et dans le sens de ce qu'il raconte. Alors, on a beaucoup évoqué les modèles de Bayona, Spielberg, Del Toro, ces gens-là.
Qui sont mentors.
Qui est le mentor. Mais il a une spécificité pour moi particulière. Je suis assez d'accord avec Rafik sur l'idée de vous pouvez pas retenir vos larmes. Et je sais pas si c'est une réponse à ça. Mais en tout cas, de tous ces cinéastes qui manient avec une intelligence rare l'allégorie, la métaphore, le symbole, c'est le mec qui peut-être... Alors c'est marrant parce que c'est intellectuel ce que je dis et pourtant ça produit un effet viscéral. C'est que j'ai l'impression que c'est le bonhomme qui exige... de son spectateur la conscience absolue de l'allégorie. C'est-à-dire, je ne vous dis pas c'est un monstre qui est symbolique d'eux. C'est-à-dire, ce monstre est une allégorie. L'allégorie, elle est claire. Et c'est comme ça, et c'était déjà comme ça dans l'orphelinat. On ne se leurre pas chez un Bayona. On n'est pas chez un Del Toro ou un Peter Jackson où tu vas pénétrer un univers, où tu vas pénétrer une mythologie, tout ce qu'on peut aimer, nous, dans ce qu'on qualifie des fois un peu de manière restrictive de genre. Mais on rentre là-dedans et petit à petit, ça nous touche aux tripes, ça nous émeut et tout d'un coup, les symboles deviennent plus clairs. C'est ce qui est évident chez Jackson où il y a énormément de symboliques extrêmement puissantes, mais on ne les voit pas forcément en tant que telles immédiatement. On les ressent à l'analyse derrière, on les remarque. Chez Bayona, elles sont évidentes pour moi et claires. Alors, c'est peut-être moi, hein, mais je les perçois immédiatement en tant que telles et j'ai l'impression qu'on me le dit. Donc la première chose que je voudrais dire sur quelques minutes après-midi, je suis un peu long et puis tu me reprendras derrière, c'est que c'est pas un film de monstre. Et en même temps, c'est le plus bel hommage au film de monstre que j'ai pu voir depuis longtemps. Ça a l'air paradoxal ce que je dis, mais on voit la bande-annonce et beaucoup de gens vont sans doute se penser « Ah tiens, du merveilleux, un enfant, un monstre, on a déjà eu le BFG récemment. »
Et la sortie du Géant de Fer.
Et la sortie du Géant de Fer. Donc,
auquel nous avons consacré l'émission.
Mais tout ça, on se dit « Ok, on est dans ce type d'univers-là. » Mais en réalité, pas du tout. Tu es immédiatement dans un drame psychologique, psychanalytique, voire limite over-psychanalytique. Et Rafik, je pense, me contredira pas.
Puis, c'est peut-être bon de préciser qu'il n'est pas un film pour enfants aussi.
Il risque
d'y avoir un malentendu. Enfin, je sais pas comment, au niveau de la distribution, il faut qu'il fasse gaffe, effectivement, parce qu'en deçà de 10 ans, c'est pas la peine. Quoi. Le môme, il va être traumatisé.
Oui, parce que là, non seulement ça t'évoque des grandes étapes du processus de guérison psychanalytique, et en plus, ça évoque la psychanalyse transgénérationnelle. Enfin, il y a énormément de choses qui sont véhiculées, mais qui sont...
D'un enfant qui perd sa mère, tout simplement.
Oui, voilà. Qui sont dictés. Oui, et puis c'est l'histoire du film, c'est ça. C'est l'histoire d'un apprentissage au deuil, entre guillemets. Et l'énorme puissance du film est de jamais te dire c'est un film de monstre. Au contraire, c'est clairement évident d'entrée que le monstre est une émanation, si tu veux, quelque chose de purement symbolique qui va traduire ce parcours psychanalytique de ce gamin, qui plus est parce que le monstre arrive et te dit grosso modo, je vais te raconter trois histoires et c'est toi qui me raconteras la dernière qui en l'occurrence est ton pire cauchemar. Bon, donc là, c'est clair, net et précis, tu sais que tu es dans un film sur le deuil, sur l'apprentissage de la mort, tu sais que tu es dans une démarche psychanalytique et que le monstre te l'a dit immédiatement. Donc il est un symbole, il est une allégorie immédiatement. Et pourtant, dans cette logique de processus de guérison, qui aurait pu en rester purement en termes psychanalytiques, il y a cette importance qu'on a déjà vu traiter de manière différente dans d'autres films, mais qui est littérale là ici aussi, encore une fois, qui est la création, qui est l'imaginaire. Et c'est une façon de dire, je vous parle de quelque chose qui est universel, qui va tous, plus ou moins, à un moment donné, nous fédérer. C'est-à-dire, quiconque a déjà vécu la perte d'un être cher, non seulement on va chialer, mais alors comme une madeleine pendant tout le film, mais en plus, va se reconnaître immédiatement dans son prochain et dans tout ce qu'il y a. Il y a une justesse, une vérité humaine qui est puissante. Et en même temps, à l'intérieur de ça, il est en train de te dire presque, je caricature, mais le meilleur remède à ça, le mec, c'est les monstres.
Mais, tu vois. Non, mais c'est pour le coup, c'est volontaire. Oui. Je l'ai eu en interview. On en a un petit peu parlé. Et pour lui, il est évident que si ce film raconte quelque chose, c'est que le réel, ce qu'on appelle le réel, ne nous dit pas la vérité. Et donc, on a affaire à une vraie déclaration d'amour au récit fantastique comme étant, d'une certaine façon, le seul moyen d'accéder à la vérité de notre monde, à ce que l'on vit réellement. Et tout ce film est évidemment, comme dit Yannick, la métaphore, elle n'est pas imposée au spectateur. On ne lui dit pas explicitement « c'est une métaphore », mais la mise en scène et la façon avec laquelle l'enfant se comporte vis-à-vis de ce monstre, c'est-à-dire avec finalement peu de surprises à chacune de ses apparitions, nous ramène régulièrement à l'idée que oui, effectivement, tout ça, c'est quelque chose d'intérieur qu'il est en train d'extérioriser par la fantasmagorie, mais cette fantasmagorie, elle est en train de l'aider à comprendre le réel, parce que dans son réel, dans son vécu, il bloque quelque chose. Il y a un truc qu'il ne veut pas voir, qu'il ne peut pas voir, et seul le plongeon dans l'imaginaire va le révéler à lui-même. Quoi. Donc ça, c'est, pour le coup, c'est vraiment la plus belle déclaration qu'on puisse faire au cinéma fantastique, en aidant le spectateur.
Mais ce n'est résistant. pas que le cinéma fantastique. C'est-à-dire que il y a l'imaginaire dans son ensemble, parce que tout le film, quand le monstre raconte des histoires, c'est sous forme d'aquarelle animée. On y montre du dessin, du, comment on appelle ça, tu sais, quand c'est crayonné, ouais. Fusain. Ouais, bah, il y a des trucs.
Chose qui n'était pas dans le roman, et que Bayona a inscrit dans le film, parce que lui-même, je pense que bon, même si on connaît pas sa biographie, on se doute que Bayona a traversé des épreuves au moins similaires. C'est aussi quelqu'un qui a eu un rapport fusionnel avec sa mère, et il dessinait quand il était gamin, en dehors de se faire péter la gueule à l'école par des plus grands que lui. Voilà, il se réfugiait beaucoup dans le dessin, donc il a mis énormément de lui dans ce personnage là et ça se sent
d'ailleurs. Liam Neeson aussi, c'est ça qui est magnifique quand on connaît l'histoire.
Qui fait donc la voix du fameux monstre.
Qui fait la voix du monstre, qui a perdu sa femme.
Et la performance capture aussi.
Qui a perdu sa femme peu de temps avant le territoire des loups, et qui, ici, est littéralement la figure du grand-père, parce qu'on le voit via des photos, mais littéralement celui qui va appuyer cette démarche psychanalytique. Il dit carrément à l'enfant, mais vas-y, crache la valda, quoi. Si tu veux, c'est important de le faire. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que non seulement c'est un hommage au monstre et puis à la création en général, mais de manière aussi symbolique que Zemeckis savait pu le faire dans The Walk, où ça parlait de création. Au final, il le fait d'une autre manière. D'ailleurs, il n'y a pas quasiment pas un plan du film dans la baraque où t'as pas une figurine de Frankenstein, quelque chose qui convoque un monstre et tout ça. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il rappelle non seulement le rôle fondamental du monstre, de ce que ça peut signifier, mais aussi combien on se leurre aujourd'hui dans la perception de ces mythologies fantastiques, parce que les trois histoires que raconte le monstre à l'enfant en aquarelle animée sont éminemment subversive, c'est-à-dire qu'elles vont à l'encontre du manichéisme qu'on a tendance à voir dans la mythologie, et où tout est surprenant, tout est inattendu. C'est pas une façon simplement de dire c'est noir ou c'est blanc, mais notre vérité du cœur est aussi entourée d'un voile, et qu'il y a toute cette notion de mensonge à soi-même, et de choses qui apparaissent évidentes mais qui ne le sont pas. Et tout ça est traduit à travers la création et sert le propos psychanalytique du film. Il y a une symbiose entre son intrigue, entre guillemets, l'allégorie qu'il prend, et son sujet du deuil et de la psychanalyse, qui, moi, m'a bluffé, mais littéralement. Chaque point trouve sa correspondance dans le récit. C'est d'un équilibre, d'une quasi-perfection. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Hein.
Et au niveau de la direction d'acteur, pareil, on n'en parle pas, mais c'est assez bluffant, parce que c'est aussi un directeur d'acteur confirmé. Et notamment Sigourney Weaver, qui est extrêmement surprenante, voilà, qui joue la grand-mère,
voilà,
avec laquelle le gamin a des relations compliquées. Alors déjà, effectivement, c'est son premier rôle de grand-mère, et en plus dans un personnage qui pourrait tomber dans la caricature, voilà, qui pourrait être la vieille marâtre,
chier.
Et la façon avec laquelle il développe la subtilité de la relation qui est en train de se créer entre deux est extraordinaire. Et voilà, sans spoiler, une des grande scène de d'émotion du film est un dialogue entre la grand-mère et l'enfant. Voilà, Felicity Jones, quand tu la vois justement dans Rogue One, livrée elle-même, sans texte, sans personnage à incarner, et là avec un vrai personnage à jouer.
Qui joue donc la mère.
Tu peux mesurer à quel point un directeur d'acteur ça peut aider des personnages à prendre vie. Enfin oui, on pourrait passer des heures à souligner ce truc. Donc voilà, moi je recommande évidemment le film, et je recommande aussi aux gens qui n'auraient pas vu de voir les précédents. Oui. Je trouve que vraiment The Impossible est un film qui a été très très mal jugé à sa sortie, justement parce qu'il invoquait trop d'émotions complexes chez son public, et que pour la critique, il n'y a rien de pire pour un critique qu'un film qui crée des émotions et qui parle à travers ses émotions, surtout qui dit quelque chose à travers elles. Et le film s'est fait bâcher la gueule avec une violence vraiment que je trouvais absolument inouïe, alors qu'il avait un message fort à nous faire passer sur la réalité de notre humanité. Donc j'invite vraiment les gens qui ne l'ont pas vu à redécouvrir The Impossible, qui sera peut-être une bonne porte d'entrée aussi pour Monster.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est peut-être aussi une des conséquences du didactisme, entre guillemets, un peu appuyé de quelques minutes après minuit. Et si déjà des gens vont avoir du mal à gérer leurs émotions, je vois très bien le critique condescendant qui ne va pas forcément aimer les derniers dialogues de la révélation du gamin, qui finalement, où les choses sont dites, c'est-à-dire que c'est même plus l'allégorie, c'est plus le symbole, c'est dit explicitement.
La première critique américaine que j'ai lue de Monster Calls, c'est assez extraordinaire parce que c'est un mec qui par ailleurs est fan de Spielberg, et je suis sûr qu'il ne s'en rendait pas compte, mais tous les termes qu'il a utilisés pour défoncer Monster Calls sont les termes qui étaient utilisés pour défoncer Spielberg au début des années 80. C'est-à-dire, on parle de totalitarisme émotionnel, de ne jamais laisser la place au spectateur, etc. Vraiment, le type s'est senti manipulé, quoi. Mais en fait, c'est pas de la manipulation, c'est-à-dire que on a affaire à quelqu'un qui connaît la façon même d'être humain. Et donc, ce qui se passe, effectivement, dans le film, c'est qu'il est en train de poser des dominos. Comme ça. Et toi, tu les vois pas forcément, ces dominos-là, mais chaque élément les pose. Et de temps en temps, boum, il suffit juste d'un petit geste pour que...
Tout s'effondre.
Voilà. Et toi, t'es pas prêt. Et tout d'un coup, t'as une émotion qui monte à toute vitesse. T'as même pas le temps de réagir que t'as déjà l'alarme qui est sortie. Et il y a des gens qui se sentent effectivement, entre guillemets, violés. Genre, mais non, j'ai pas envie. Oui, mais non.
D'ailleurs, c'est ce qui est exactement étonnant dans le film, c'est que des fois, l'émotion la plus puissante vient de scènes qui sont complètement à contre-courant même. Non, mais à contre-courant de toutes les scènes qui nous font chialer fondamentalement d'habitude. Sur des trucs où t'as même pas un mort, t'as même pas quelque chose. Tu vois juste un gamin courir, tu vois.
T'as pas de musique.
Et là, tout d'un coup, ça te démonte totalement. Mais j'entends les dominos de ça, mais il y a au-delà de la mécanique, c'est moi là où il me troue et que j'en vois pas beaucoup comme ça, c'est comment il touche le cœur, c'est cette capacité incroyable à comprendre ce qu'est l'être humain, quoi, mais d'un point de vue viscéral, quoi. C'est hallucinant. Moi, je défie quiconque d'aller voir le film et de pas, en tout cas, je peux comprendre, des fois, même quand on a une pause intellectuelle ou tout ça, parce que j'entends qu'ils disent, oui, il est bien, mais ça ne m'a pas plu, je préférais l'orphelinat. Et tu sens tout de suite que, ok, mec, tu t'as mis les freins. Mais au final, ce qu'il dit, ça nous parle à tous, qui que nous soyons.
Je crois que ça conclut assez bien cette petite discussion. Monster Calls, quelques minutes après minuit en français, c'est au cinéma en ce moment. Pour terminer, messieurs, quelques secondes peut-être pour les recommandations d'usage, même si on a un petit peu commencé, si possible, autour de l'univers de Bayona ou du cinéma espagnol aussi, c'est pas mal. Rafik.
Bah oui, sans originalité. Ouais. Donc j'ai conseillé très très vivement aux gens de revoir The Impossible. Il a également réalisé les deux premiers épisodes de la série. Ça y est, le nom m'échappe, mon Dieu. La série sur les tirée des nouvelles fantastiques anglaises de la fin du 19e siècle.
On va pas t'aider là.
Tu vois nos yeux là.
Penny Dreadful. Merci à moi-même.
Dreadful, voilà. Bien sûr, Penny
donc
Dreadful.
C'est Bayona qui a posé la charte graphique en réalisant l'épisode 1 et 2 de Penny Dreadful. Éventuellement aller voir.
Allez regarder ça. Yannick.
Bah moi, comme d'habitude.
Comme d'habitude, t'as pas de reco.
Si. Écoute, le seul autre film que j'ai vu dans ma life qui m'a autant ému avec des allégories dont parfois je ne comprenais pas absolument pas le sens.
C'est Le Petit Dinosaure.
C'était pas ça. Non. C'était Paprika de Satoshi Kon, qui est un film que je trouvais intellectuellement vertigineux, et pourtant c'était dans les tripes que t'en ressortais. Tu sais, c'est comme si tu ressens des fois émotionnellement des questionnements métaphysiques. Ça paraît absurde, mais des fois ça fait ça. Et moi, Paprika, ça m'avait fait ça. Donc je conseille ce film.
Il faut juste peut-être noter aussi, moi j'en suis désolé, mais bon, évidemment j'attends de voir ce qui va en être. Bayona a été choisi pour faire la suite de Jurassic World. Voilà, il a donc accepté. désolant parce que on connaît un peu autour de cette table la problématique qu'on a vis-à-vis des majors hollywoodiennes en ce moment et leur façon de squeezer les auteurs potentiels. J'espère qu'il va s'en tirer, qu'il va réussir à livrer quelque chose.
Ça sera mentir.
La raison pour laquelle il a dit oui, elle est toute simple, hein, c'est que ça lui donnera l'occasion de fréquenter un de ces demi-dieux qui est Steven Spielberg lui-même.
Tout simplement.
Ouais, je pense aussi. Alors après, il y a d'autres explications qui font qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est très délicat pour un réalisateur talentueux, estimé ou quoi que ce soit, de ne pas passer par la case blockbuster quand on lui en donne l'opportunité, s'il veut continuer à pouvoir avoir une carrière libre et intéressante. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'histoires tu vois, d'envers du décor, agent, tout ça, qui font que peut-être Bayona, on lui a dit, hey mec,
il faut le faire.
Fais-le, et puis tu feras ce que tu voudras.
Tu feras après, toi, tes petits films à toi avec tes petits monstres. Voilà, on jugera Jurassic World à lui sur pièce. Avant de se quitter, j'ai un petit cadeau pour les gens qui nous écoutent, un livre, L'art de la Hammer, les plus belles affiches des films de la Hammer, de Marcus Hearn. Ça tombe bien, on parlait de cinéma fantastique, de films de monstres, mais la Hammer fait difficilement mieux en la matière. Évidemment, sur la couverture, il y a Christopher Lee, un des visages emblématiques de la Hammer, auquel on avait d'ailleurs consacré une émission, hein, Christopher Lee, à l'occasion de son décès. Et justement, donc, pour gagner ce livre, une petite question: quel était le film dont Christopher Lee était le plus fier? La réponse est dans le podcast que nous avions fait à l'époque, et notre temps est écoulé. Merci messieurs, merci à tous les deux, merci à Jules à la technique, merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Puisqu'on en parle, sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer nos podcasts. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com/binge-audio. On a besoin de votre soutien. Il y a plein de super goodies, notamment des très beaux t-shirts, donc c'est tout bénef. N'hésitez pas non plus à noter favorablement, si possible, ce merveilleux podcast sur iTunes. Ça ne peut que lui faire du bien. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.